France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions Politiques. Enfin, le débat sur le budget du pays a commencé à l'Assemblée nationale. Depuis deux jours, les débats se succèdent dans l'hémicycle, sous le regard des agences de notation qui répètent les unes après les autres, Moody's encore vendredi soir, combien l'instabilité compromet le rétablissement de nos comptes. Et puis sous la pression de la gauche et de la droite, c'est Gérard Larcher, le président Les Républicains du Sénat, qui prévient ce matin que sa chambre rétablira la réforme des retraites. Et puis ce sont les socialistes qui font planer la menace de censure, faute de gestes du gouvernement sur la taxation des plus riches. Notre invitée, elle est dans cette arène depuis deux jours. Elle vient d'encaisser deux gros revers sur son texte, des mesures qui devaient rapporter plusieurs milliards. Alors sans majorité, 149-3, la ministre des Comptes publics croit-elle encore à un chemin pour faire adopter le budget et ses 30 milliards d'efforts? Est-ce que le moment le plus parlementaire de la Ve République se joue dans l'hémicycle ou alors en coulisses, et plus précisément à Matignon? Amélie de Montchalin est notre invitée en direct sur France Inter. France Info, c'est le canal 16 de la télé. Et en partenariat avec le journal Le Monde, nous sommes ensemble pour répondre à toutes les questions politiques jusqu'à 13h.
France Inter. Question politique, Alexandra Ben Saïd.
Bonjour et bienvenue Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés pour vous interviewer, je salue Alix Bouillaguet de France Télévisions. Bonjour Alix.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Avec vous tout à l'heure, on fera le portrait d'Amélie de Montchalin qui a participé à l'aventure macroniste depuis la première heure.
Oui, on va essayer de comprendre la trajectoire politique d'Amélie de Montchalin. Quels sont ses modèles, ses ressorts, son lien à Emmanuel Macron et peut-être aussi quels sont ses regrets si elle en a.
À côté d'Alix Bouillaguet, Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et tous.
Vous nous projetterez, Françoise, vers 2027. Une question qui animera les débats ce samedi, c'est...
Deux questions en réalité, qui sont directement issues de l'enquête Ipsos qu'a publié Le Monde sur les fractures françaises mardi. Une enquête absolument passionnante, mais qui pose deux questions. Comment le RN, que tous les autres partis prétendaient combattre, est-il en train de devenir le favori de la prochaine élection présidentielle? Et y a-t-il encore un moyen de freiner son attractivité?
Vos réponses à ces questions, ça sera la séquence France 2027 vers 2050. Mais tout de suite, Amélie de Montchalin, la bataille budgétaire est en cours. Est-ce que vous croyez toujours que la France pourra avoir un budget d'ici la fin de l'année?
Non seulement j'y crois, mais j'y travaille. Pas seul. Nous sommes un gouvernement sans majorité absolue. Nous sommes un gouvernement qui, sous l'autorité du Premier ministre, a dit que nous renoncions au fameux 49-3. Et nous sommes dans un moment très politique où, au fond, ce qui se joue, c'est une course d'endurance. Une course d'endurance pour l'intérêt général qui est menée par des acteurs qui sont souvent opposés sur beaucoup de choses, qui d'ailleurs sûrement s'opposeront lors de la présidentielle de 2027, mais vous avez des partis de gouvernement qui, depuis deux jours, on le voit, qui d'ailleurs, la semaine dernière en commission des finances, essayent de faire, il me semble, notre, peut-être non pas notre mission, servir les Français et au fond permettre que, d'ici 18 mois, une présidentielle se tienne dans de bonnes conditions. Puis vous avez d'autres acteurs, hein, qui sont les extrêmes. Eux, ils ne sont pas dans la course d'endurance pour l'intérêt général. Ils sont dans le sprint, au tweet, aux invectives, aux images qui passent bien sur les réseaux sociaux, mais qui ne mènent, au fond, les Français et la France nulle part. Donc, oui, je crois que c'est possible. Ça se construit. C'est une méthode nouvelle. Ça prend du temps. Et vous voyez, certains disent que les débats sont lents.
Alors oui, justement, mais... ceux qui disent, Amélie Montchalin, il y a certains qui disent, non mais attendez, les débats là, ils sont enlisés, on voit bien ce qui est en train de se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, on ne tiendra pas les délais et le gouvernement fera passer ces textes par ordonnance. Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce que ça n'est pas déjà écrit, en particulier pour le projet de loi de finances de la Sécurité sociale?
Qui dit cela?
Vous entendez les coulisses?
Le Rassemblement national. Pourquoi? Et les LFI avec. Mais pourquoi ils disent ça? Parce que leur carburant électoral, c'est de dire que le pays ne fonctionne pas, que les partis de gouvernement ne peuvent pas s'entendre, et qu'au fond, la seule solution, c'est soit la destitution du président de la République, quand on est insoumis, soit le retour aux urnes le plus rapidement possible, quand on est au Rassemblement national. Est-ce que le retour aux urnes garantira une majorité absolue? Beaucoup de commentateurs, beaucoup d'observateurs, et moi-même, je pense qu'il n'y a pas de majorité absolue automatique si on retourne aux élections. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas retourner aux élections, ce n'est pas ma décision, c'est celle du président de la République. Mais ça veut dire que Il y a toute une illusion qui est en train d'être nourrie par ces deux partis extrêmes, parce que ce que les partis de gouvernement font de manière transparente par des votes les embête. Et d'ailleurs, si vous regardez dans les interventions, que ce soit de Jean-Philippe Tanguy ou de Manuel Bompard côté Insoumis, ils se moquent non seulement du compromis, mais ils se moquent des députés qui s'engagent dans ce compromis. Donc ceux qui vous disent ça s'enlise, moi je leur dis une chose très
simple. Ça s'enlise et ça passe par ordonnance. Vous dites non ce matin, c'est ça, on vous entend.
Oui, quel est le rôle
Amélie Montchalin, quand même, vous, ça fait deux fois que vous dites les partis de gouvernement, on peut y arriver. Non mais vous venez d'encaisser deux gros revers. Et ces revers, ils vous ont été infligés par les Républicains avec des voix macronistes. Je parle de la défiscalisation de l'intégralité des heures supplémentaires et puis surtout du gel de l'impôt.
Pourquoi vous parlez de revers?
Du gel du barème de l'impôt sur le revenu. Vous souhaitiez 3 milliards avec ces deux mesures.
Juste qu'on soit clair. Les mots que vous utilisez
revers
s'appliquent à un gouvernement qui a une majorité absolue et que sa majorité absolue combat. Ça s'appelle un revers. Nous avons, nous, déposé un projet. Nous avons dit nous voulons rétablir un déficit qui soit en dessous de 5 résolument. Notre copie initiale, c'est 4,7%. Voilà comment on propose d'y arriver. Et donc, je vais reprendre les deux sujets. Premier sujet, le barème de l'impôt sur le revenu. Sujet sur lequel les Français, évidemment, tous... écoutent, se sentent concernés, ils ont raison. C'est
ça ferait entrer 200 000 personnes dans l'impôt.
Nous avions fait une proposition sur la table. Se dessinait une forme de compromis qui disait, ce gel du barème, peut-être qu'il faut en exonérer les premières tranches, c'est-à-dire les classes moyennes, pour éviter peut-être que de nouveaux ménages payent l'impôt. Et il y avait un débat assez construit qui est en train de s'organiser sur, au fond, qui doit être exonéré cet effort. Mais étaient posés dans le débat aussi des éléments que j'ai rappelés. Vous avez, dans la proposition de ce fameux gel du barème, ça allait entraîner, par exemple, pour des ménages qui ont 200 000 euros de revenus, une hausse d'impôt de 230 euros. Et il nous semblait possible de défendre l'idée que, dans le moment budgétaire que nous vivons, on pouvait répartir l'effort de telle manière à ce que les plus aisés des Français contribuent un petit peu plus. Et 230 euros pour 200 000 euros de revenus, vous voyez, ça me semblait raisonnable.
Mais donc, les Républicains menés par Laurent Wauquiez, et vous avez des Républicains dans votre gouvernement, ont fait en sorte que ce que vous défendiez, c'est-à-dire la première tranche qui soit exonérée de ce gel du barème, ça n'a pas marché. Non, ils ne sont pas allés dans votre sens.
Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions en train de construire ce compromis. Et là, LFI, qui clament toute la journée, qui veulent de la justice fiscale, qui veulent taxer les riches, d'ailleurs qui veulent taxer en même temps les entreprises, la réussite et tout ce qui va avec, par opportunisme, parce qu'ils veulent faire dérailler le débat, ont voté cet amendement. Ça veut dire que les insoumis aujourd'hui, ce matin, quand les Français se réveillent, ont permis que, contrairement à ce que proposait le gouvernement, les ménages les plus aisés du pays ne payent pas, quand ils ont 200 000 euros de revenus, 230 euros de plus l'année prochaine.
Alors, on vous entend,
je ne suis pas, moi, pour l'augmentation des impôts à tout va. Mais la proposition, c'est quand même, vous voyez, un peu étonnant.
On a entendu Laurent Wauquiez plus que LFI sur ce thème.
Oui,
mais je vous entends, vous n'avez pas envie.
Parce qu'aujourd'hui, dans l'hémicycle, et je veux vraiment que les Français comprennent, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de tambouille. On cherche, pour l'intérêt général, pour les Français, de leur donner un budget qui, à la fois, rétablisse les comptes publics et crée, sujet par sujet, un compromis. Et donc, je peux vous dire, moi, le rôle qui est le mien, c'est pas de savoir si je suis battu ou si j'ai gagné. C'est de savoir si j'arrive, dans le rôle qui est le mien, que le Parlement, bien informé, de manière intelligible, et bien sujet par sujet, fasse des compromis.
On fait comme la politique dans Question politique et dans l'hémicycle.
Mais c'est très politique.
Mais justement,
si les extrêmes,
moi, je vais vous emmener sur les Républicains.
Par opportunisme et par incohérence, quand ils s'appellent le RN et les Insoumis, parce qu'ils veulent, au fond, faire dérailler le compromis, parce qu'ils s'en moquent, parce qu'ils se moquent aussi des Français,
et quand,
parce qu'ils ne veulent pas d'intérêt général. Ils veulent retourner soit au chaos,
Amélie de Montchalin, vous l'avez dit.
Soit
je vous entends.
Aux urnes, et je pense que ça n'apporte pas directement les solutions qu'il proclame.
Alors, est-ce que dans ceux qui veulent faire dérailler les compromis, il y a aussi, est-ce que vous mettez aussi le président, les Républicains du Sénat, qui ce matin, dans une interview au Parisien, Gérard Larcher, il dit, nous, on va rétablir la réforme des retraites. Et ce compromis sur la suspension, c'était le vôtre avec le Parti Socialiste. Est-ce qu'il fait dérailler le système, lui aussi? Est-ce qu'il est contre les compromis, Gérard Larcher?
J'ai un scoop pour vous. Gérard Larcher n'est pas au gouvernement. Qu'est-ce que c'est que cette suspension? Il faut revenir aussi à ce qui a été proposé. Le Premier ministre dit « Je propose que cette réforme soit suspendue jusqu'à la présidentielle, non pas par conviction personnelle, mais par conviction démocratique. Il y a une blessure démocratique sur ce texte qui bloque le débat et on suspend, non pas pour suspendre, on suspend pour avoir, d'ici à 2027, les syndicats et les organisations patronales qui remettent le chantier sur le métier. S'ils trouvent un accord, on le transposera et s'ils ne trouvent pas d'accord, ce sera un débat de la présidentielle. » Et le Premier ministre le dit « En faisant cela, nous permettons d'avoir une forme de stabilité potentielle pour notre pays qui permet que jusqu'à la présidentielle, on donne un budget aux Français, bon, on leur permet d'avoir des projets et on avance.
Mais là, c'est les Républicains, c'est-à-dire un membre du socle commun qui dit nous, on va rétablir la réforme.
Que les uns et les autres aient des convictions. Que les uns et les autres votent. Mais c'est pas parce que, vous voyez, il y a beaucoup d'autres sujets dans le débat où le Sénat et l'Assemblée ne vont pas être d'accord a priori. Mais ensuite, vous savez comment ça marche. Il y a des votes, il y a des commissions mixtes paritaires, on cherche à bâtir le compromis. Bon. Et le budget, on ne le veut pas pour demain. On le veut pour le 31 décembre. Donc, c'est ça qui est aussi le processus dans lequel on est. C'est un processus qu'on fait devant les Français parce que nous voulons pouvoir nous dire que dans notre pays, d'ici à 2027, on doit être capable de trouver des compromis d'action. Est-ce qu'on va tout résoudre les grandes questions du pays d'ici là, dans les 15 prochains jours? La réponse est non.
Vous avez dit qu'il n'y a pas de tambouille. Or, dans les coulisses, on entend qu'il y aurait des deals secrets qui seraient en train de se négocier. Je vous propose, avant que vous nous répondiez, d'écouter Les Insoumis et le Rassemblement National, Manuel Bompard de LFI, Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National.
Et autre question, là, qui ça m'adresse au nouveau secrétaire d'État au budget, qui est, je ne sais pas si c'est Monsieur Brun, Monsieur Hollande, Monsieur Faure, pour savoir où on en est, donc, de vos négociations très importantes de fond de couloir, je ne sais plus très bien, derrière un rideau, un peu comme un quickie, pour savoir si, finalement, il y aura ou pas une contribution des plus hauts revenus. Parce que si vous voulez, nous, on vote dans le brouillard.
Madame la ministre, juste de telle sorte à ce que chacune et chacun d'entre nous puissions nous organiser, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous fixez un peu votre deadline pour voir si vous arrivez à vous mettre d'accord avec le Parti Socialiste sur la taxe Zucman, pour qu'on puisse savoir à peu près à quel moment cette taxe va pouvoir être examinée dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
Alors, et ce matin, Olivier Faure sur LCI dit « Nous avons un dialogue permanent avec le Premier ministre, Sébastien Lecornu ». Une question de Françoise Fressoze.
Alors justement, vous êtes au cœur du chaudron, racontez-nous les coulisses. Tous vos détracteurs disent « Bon, il y a des négociations secrètes ». Est-ce qu'il y a des négociations secrètes ou non secrètes? Qui les mène? Est-ce que c'est Sébastien Lecornu? Est-ce que vous-même vous êtes associé? Du côté socialiste, qui vient? Et quand est-ce tout cela se dénoue sur un pacte global? Racontez-nous exactement ce qui se passe.
Qu'est-ce qui se passe? Le Premier ministre et le gouvernement, nous avons proposé un texte de budget. Il y a des articles. L'article 1, je vais y revenir, vous voyez, M. Tanguy, là, qui donne des leçons, qui veut savoir comment ça se passe. Vous savez ce qu'il a fait sur l'article 1? Il a décidé, avec son groupe, de ne pas voter la possibilité donnée à l'État de lever l'impôt.
C'est ça, l'article 1.
Bon. C'est, je ne sais pas si on comprend bien ce que ça veut dire. Vous avez Marine Le Pen qui passe sa journée à nous dire qu'elle veut une France forte, qu'elle veut plus de sécurité. Le vote du Rassemblement National, il y a donc de ça deux jours, c'est passé un peu inaperçu. C'est que nous n'aurions plus eu la possibilité de lever l'impôt. Ça veut dire qu'il y aurait eu 0 € pour l'armée.
Mais vous répondez pas vraiment à ma question.
Donc le RN, là, il donne des leçons, il veut savoir comment ça se passe.
D'accord.
Mais surtout, ils sont aujourd'hui, et ils font donner la preuve, qu'ils ne sont pas prêts à gouverner, qu'ils ne sont pas prêts à prendre leurs responsabilités.
Alors,
et qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est du théâtre. Donc ça, c'est le RN.
Ok. Dites-nous ce qui se passe avec les socialistes.
Bon, vous avez l'article 1, l'article 2, l'article 3. Bon, l'article 3, vous savez, c'est la proposition que nous faisons sur les holdings et sur la manière de s'assurer que, dans notre pays, quand vous vous constituez un patrimoine personnel, ben vous payez les impôts qui sont liés aux impôts personnels. Vous n'utilisez pas la fiscalité des entreprises, qui est plus avantageuse, pour vous constituer un patrimoine personnel. On a fait une proposition. D'autres ont fait d'autres propositions. Taxe Zucman, d'autres variantes. Moi, j'ai été députée pendant 5 ans. C'était un grand honneur. J'ai d'ailleurs travaillé sur les budgets de 2018 et 2019. Ce qui se passe est, au fond, ce qui se passe toujours. Nous avons, moi, ministre des Comptes publics, le Premier ministre qui, par définition, dans les phases budgétaires, est toujours très impliqué, comme l'ont toujours été tous les Premiers ministres. On a des discussions avec tous les groupes. Et on prépare les débats.
On a l'impression que le deal se fait avec les socialistes. Ça fait hurler la droite qui dit « nous, on n'est pas associés, vous leur faites du grain et nous, on n'y est pas ». Donc, dites-nous exactement, est-ce qu'il y a un deal global qui a été conclu entre Sébastien Lecornu et le Parti Socialiste?
Il n'y a pas de deal global. Il n'y a pas de pacte de non-censure, il n'y a pas d'accord de coalition. Il y a des sujets sur lesquels nous cherchons des compromis. Avec les Républicains, nous savons, vous l'avez vu hier par les votes, qu'il y a une forte demande que nous travaillons sur la meilleure prise en compte des heures supplémentaires. Le vote d'hier, c'est le début d'une négociation sur ce sujet, parce qu'il y aura aussi des propositions dans le budget de la Sécurité sociale. Et donc, on n'est pas du tout au bout de l'histoire. Donc, avec les Républicains, je peux vous dire, on travaille sur les enjeux de pouvoir d'achat pour les travailleurs et les heures supplémentaires.
Quand même, le sentiment, Amélie Machelin, que ce sont les socialistes qui mènent quand même la danse. Au cours de l'examen en commission, la gauche a sur le papier enchaîner les défaites. Il n'y a pas de taxe Zucman sur les plus grandes fortunes, il n'y a pas d'instauration d'un impôt sur la fortune climatique, ni de hausse des droits de succession. Le PS affirme désormais qu'il est prêt à censurer s'il n'y a pas de taxation des ultra-riches. On voit bien qu'ils sont de plus en plus gourmands et on est autour de cette notion de taxe Zucman light. C'est quoi et sur quoi vous pouvez atterrir ?
Rappelons les éléments du débat. Faut-il réformer de A à Z dans les 3 prochains jours la fiscalité dans notre pays ? Et pouvons-nous le faire ? La réponse est non. Est-ce que c'est grave ? Je ne pense pas. Pouvons-nous, en revanche, nous mettre d'accord des bancs sur l'ensemble de l'hémicycle qui a envie que nous fassions un compromis, donc ni le RN quand vous les écoutez, ni LFI, sur la manière de lutter contre l'optimisation fiscale des plus aisés, des plus riches, et de prendre les choses de manière...
Ça, c'est déjà un acquis. Enfin, c'est dans les discussions. Je vous parle de la taxe Zucman light. Ça serait quoi?
Parce que reviens.
C'est plus 15 milliards, c'est 8 milliards. Sur quoi vous atterrissez? Non, mais essayons d'être concrets ce matin.
Je vais être très concrète. Donc, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur la lutte contre l'optimisation des plus riches? La réponse, je pense, est oui. Maintenant, le débat, c'est comment? Et le Premier ministre a été très clair. Nous pouvons travailler sur beaucoup de dispositifs, mais avec une ligne, qui n'est pas une ligne rouge, qui est une ligne de cohérence. Nous voulons protéger à tout prix les entreprises, les entrepreneurs, l'investissement et ce qu'on appelle les biens professionnels. Pas parce qu'on est dogmatique, mais parce que précisément, si aujourd'hui on ne voit pas que le meilleur remède à la baisse du déficit, pas seulement pour 2026, mais pour les années qui viennent, c'est d'avoir de la croissance, c'est d'avoir des entreprises qui embauchent, c'est d'avoir des entreprises qui investissent, c'est d'avoir plus de richesses concrètes
donc
qui permettent
de financer. Donc cette taxe-là, elle rapporte combien ?
Il y a plein de manières de le faire, lutte contre l'optimisation.
On va aller sur la technique.
Aujourd'hui, dans le projet de budget que nous avons mis sur la table, nous avons mis sur la table une proposition autour des holdings, qui est un sujet, je suis pas sûr que tous les Français voient bien comment marche une holding, mais en gros, si je résume, vous avez aujourd'hui des personnes qui utilisent la fiscalité des entreprises de ces holdings pour se constituer des patrimoines personnels. La proposition qu'on fait, ça rapporte un milliard.
Les socialistes, Emmeline
Montchalin, et donc on va avoir ce débat.
Ils vous proposent autre chose, et c'est ça qui est a priori dans le deal dont parlent Françoise et Alix. Ils vous proposent pas une taxe Zucman.
C'est pas moi qui propose. C'est ça. Non mais juste.
Mais je voudrais savoir quelle est. En fait, on voudrait comprendre ce que vous pensez de leur proposition, qui est, ça n'est plus la taxe Zucman, c'est une taxe Zucman Night, disons, qui n'a pas le même périmètre, et sur les biens professionnels, puisque c'est ça votre sujet, de dire il ne faut pas que les biens professionnels soient dedans. Les socialistes vous disent, ok, on exclut en gros les start-up et les entreprises familiales. Est-ce que ça, cette formule-là, elle vous paraît acceptable aujourd'hui ?
Mais voyez, je vais répondre. Mais il ne le propose pas à moi.
Il le propose apparemment à Sébastien Lecornu, alors.
Et il ne le propose pas non plus à Sébastien Lecornu. Le débat, c'est pas, voyez, entre Sébastien Lecornu, Premier ministre, et moi, et avec eux, ce sera un débat pour qu'il y ait compromis, pour que quelque chose existe dans ce budget. Il faut que ça puisse être voté par la majorité de l'hémicycle.
Alors que pensez-vous ?
Objection, je peux vous dire. Amélie Montchalin, objection. Quand Gabriel Attal dit, moi je veux bien discuter avec les socialistes, mais je veux savoir aussi ce qui est acceptable par le gouvernement, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller. Oui. Il y a quand même une demande d'arbitrage, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester neutre en disant, nous on est observateurs, on ne voit rien. Or, ça porte sur des masses importantes. Vous vous proposez quelque chose à 1 milliard, les socialistes sont à 15 milliards, peut-être, il y aurait peut-être une voie de passage à 8, 9 milliards, c'est important ça.
Vous voyez de quoi on parle ? On manie les milliards comme si on était en train de jongler. Ma position est la suivante. Ça ne sert à rien qu'on invente des mécanismes qui n'ont aucune viabilité politique. Ça ne
donc,
sert à rien d'inventer.
Zucman Light, c'est
ça ne sert à rien d'inventer des mécanismes qui toucheraient la capacité du pays à se relever. Et si ça touche la capacité du pays à se relever, c'est-à-dire si ça touche l'investissement, l'entreprise, la capacité du pays à innover, ça ne marchera pas. Pas parce que ça ne marchera pas politiquement, mais ça ne marchera pas dans la vraie vie. Et nous, notre rôle, c'est pas de créer des illusions, c'est pas de faire des symboles. Je l'ai dit plusieurs fois dans l'hémicycle. La justice fiscale, on y croit. La lutte contre l'optimisation fiscale, non seulement on y croit, mais on veut la combattre. Les symboles fiscaux, ça ne résout rien et ça crée beaucoup de désillusions chez les Français. Ça les éloigne de la politique. Ils ont l'impression qu'on manie des grands mots et qu'à la fin, il ne se passe rien.
Et pourtant, les socialistes font planer la menace de censure s'ils n'ont pas ce geste, et notamment sur une Zucman.
J'échange. C'est mon rôle. Je suis assise, vous voyez, de 9h à minuit depuis maintenant quelques jours. Et pour encore, je peux vous dire, de très nombreux jours. Dans un hémicycle où mon rôle, vous le voyez bien, c'est pas que ce soit avec moi qu'on négocie. Moi, mon rôle, c'est de rendre le débat intelligible, d'expliquer quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui correspond à notre droit constitutionnel, qu'est-ce qui fonctionne dans notre cadre fiscal aujourd'hui. Il y a plein de choses, et heureusement, qui peuvent fonctionner. Mais la question, c'est parce que moi, je pense qu'il peut fonctionner, c'est sur quelle proposition l'hémicycle peut avoir un vote. Parce que je peux vous dire, on peut inventer les plus belles choses. Si à la fin, c'est voté par 10 députés, ça peut être très beau, ça n'a pas de conséquences dans la vie concrète. Et donc, scoop, je peux vous dire que j'échange avec Gabriel Attal, j'échange avec Laurent Wauquiez, j'échange avec Marc Fesneau,
oui, mais enfin, ce sont les socialistes qui vous menacent de censure.
Avec Boris Vallot, avec Cyril Châtelain, avec tous.
Amélie de Montchalin, là, vous avez fermé la porte sur cette proposition
non,
de Tax Zuckman Light qui
tout.
Rapporte 8-9 milliards.
Pas du tout, mais pas du tout.
Vous dites que ça passera pas et donc...
Dans la proposition qui est faite, il y a une partie, effectivement, de biens professionnels qui sont en dehors de la proposition. Il y a une partie sur laquelle on peut avoir des discussions. Il y a ensuite la question du taux. Il y a des propositions, vous voyez, à 2%, il y a des propositions à 3%, il y a des propositions à 5%, il y a des propositions à 1%. Tout ce travail-là, c'est pas, vous voyez, une négociation de chiffres. Il y a un principe. Comment on sauvegarde la création de richesses? Et je sais que les socialistes y sont très attachés. Il y a un deuxième principe, c'est comment on lutte contre l'optimisation fiscale de manière efficace. Et nous y sommes tous attachés, de droite et de gauche.
Okay.
Et ensuite, ce débat, je le redis, nous, gouvernement, on doit, parce qu'on écoute tout le monde, parce qu'on parle avec tout le monde, comprendre où peut être le compromis. C'est ce que j'ai fait toute la journée d'hier, sur tous les sujets. C'est de dire, j'entends les différentes propositions, il me semble que telle option proposée
alors,
par
alors, il est où le
groupe,
compromis avec les socialistes sur cette taxe Zuckman, light ou archi-light?
Le
ou,
débat arrive. Mais là, aujourd'hui, est-ce qu'il a...
Il n'est pas encore fait.
Mais non, il n'est pas encore fait. L'article 3 n'est pas encore débattu. Vous savez que demain... à l'agenda de l'hémicycle.
Mais vous avez eu le temps d'y penser quand même, parce que ça fait... Il y a eu une commission, donc là, vous dites,
là, vous
on
reportez.
Va attendre de parler en session, en séance, pour pouvoir avancer sur ce chemin. J'espère quand même que vous avez une petite idée.
Je le redis. Mais, des idées, j'en ai plein. Mais les idées d'Amélie Montchalin, en fait, je vous le dis franchement, ne sont pas la solution. Parce que si j'ai raison toute seule, si Monsieur le Premier ministre fait une proposition où il a raison tout seul, ça ne change pas ni la capacité à faire un compromis, ni la capacité à faire avancer le pays.
Le débat, vous et le donc, reportez, il va être reporté dans quelques jours, non, hein, ce fameux pas, débat non, sur, la,
aussi,
sur les... voilà. Est-ce que c'est pour vous acheter du temps non, et négocier ce compromis?
Vous savez, les insoumis sont très forts à créer des polémiques sur des sujets qui n'en ont honnêtement pas la nature.
Bah là, c'est les socialistes qui le réclament, cette...
Nous avions annoncé que lundi, demain, le débat à l'Assemblée porterait sur la fiscalité des entreprises. Qu'est-ce qu'on fait sur la surtaxe à l'impôt des sociétés pour les plus grandes entreprises, qu'est-ce qu'on fait sur la CVAE, qui est un impôt...
Ça, c'est l'article combien ?
L'article 4.
Voilà, donc l'article 3 sur...
Nous avions
passe
dit
après l'article
voilà,
4.
Que Roland Lescure serait présent dans l'hémicycle lundi pour parler de fiscalité des entreprises. J'ai confirmé hier que lundi, Roland Lescure, donc demain, serait présent pour discuter de fiscalité des entreprises. À un moment donné, vous savez, on est à nouveau dans une course d'endurance. Et moi, je pense que les extrêmes qui veulent faire dérailler le débat, ils seront fatigués avant nous.
Bon, on
parce
avance.
Que le sprint au tweet, le sprint à la polémique... Les Français comprennent bien que ce n'est pas fait pour eux.
L'autre texte...
Ils sont même d'ailleurs plus les victimes que les objets du travail des extrêmes.
L'autre texte qui va arriver en commission cette fois lundi, c'est le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, Amélie de Montchalin. Là-dedans, il y a 7 milliards d'économies sur la santé, des franchises, des moindres remboursements, et puis le gel des pensions en 2026. Alors parlons des retraités. L'abattement de 10% que vous souhaitez remplacer par un forfait. Pas d'indexation sur l'inflation, je viens de le dire, en 2026. Quasiment pas en 2027. Ça, c'est pour financer la suspension de la réforme. Est-ce que vous vous acharnez sur les retraités?
Mais aucunement. Aucunement. Chacun des sujets porte des convictions que le gouvernement propose. L'abattement dont vous parlez, les fameux 10% remplacés par un forfait, c'est une proposition qui fait qu'un quart des ménages de retraités paieront moins d'impôts l'année prochaine s'il est voté. Vous voyez, des propositions de justice fiscale, tout le monde en demande, le gouvernement propose, vous voyez, sur aujourd'hui une niche fiscale de 6 milliards, qu'on le réduise à 5 milliards, et que faisant cela, on a en plus un quart des retraités qui est gagnant.
Mais avec le gel et la sous-indexation en 2027, est-ce que vous pouvez nous dire, à nos auditeurs combien ils vont perdre retraités par mois? Est-ce que ça, par exemple, ça peut les éclairer?
Et si on a un gel, c'est-à-dire qu'on stabilise les retraites. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de pays qui, malheureusement, dans des situations budgétaires comparables à la nôtre, n'ont pas proposé la stabilité des retraites, ou la stabilité du barème des impôts, ou la stabilité des prestations sociales. Ce qui leur est arrivé, vous savez, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, il y a de ça 10 ans, ils ont baissé les retraites de 10 ou 15%. La proposition que le gouvernement fait, c'est comment on répartit l'effort, comment on le rend proportionné à ce que les Français peuvent chacun contribuer. On sait que c'est un effort très important, mais c'est notre proposition. On est ouvert à toutes les propositions alternatives. À la fin, il faut juste se dire qu'il faut qu'on réduise le déficit.
D'accord.
Si on le réduit pas, c'est les prochains gouvernements, c'est les prochains députés qui n'auront plus le choix.
Vous dites l'abattement forfaitaire de 2000 euros, c'est une forme d'équité. Et est-ce que, du coup, vous dites, comme François Bayrou, que les boomers doivent prendre leurs responsabilités dans l'explosion de la dette?
Je ne dis pas ça.
Il n'y a pas une solidarité intergénérationnelle. Ils ont un niveau de vie souvent qui est plus fort que les actifs.
Oui, moi, je pense que la présidentielle va se jouer sur trois sujets. La justice fiscale, la solidarité intergénérationnelle et le financement du modèle social. Je pense que ce sont les trois sujets aujourd'hui où on a des clivages très importants entre les partis, on a des clivages très importants dans les partis, et ce sont, à mon avis, les débats qui vont être ceux de la présidentielle. Est-ce que, à nouveau, dans les trois prochains jours, on va remettre toute la solidarité générationnelle en question ou confirmer telle qu'elle existe aujourd'hui ? La réponse est non. Est-ce que, en revanche, on peut, sujet par sujet, trouver des compromis d'action, se dire, bon, on n'est pas d'accord sur tout, mais sur ce point, vous voyez, quand on a une inflation à 1%, après des revalorisations des retraites de 2% au 1er janvier 2025, de 5,3% en janvier 2024, est-ce qu'il est possible que collectivement, d'ailleurs, nous ayons un effort partagé entre tous les Français?
Même les petites retraites.
Mais ce sera aussi un élément du débat. Mais à nouveau, vous voyez, avoir un débat sur... Si,
mais excusez-moi, mais ça fait un an qu'on est sur ce débat du budget, et à chaque fois vous nous dites on va voir ce qui va se passer dans le débat.
Mais Alix Bouyaillé, ça fait un an, oui, que nous sommes dans une situation budgétaire très compliquée. Il y a un an, je vous rappelle, il n'y avait pas de budget. Le gouvernement de Michel Barnier était censuré sur le budget. Moi, on m'a demandé de venir, vous voyez, à la rescousse le 23 décembre. À ce moment-là, les gens me disaient, tu vas être censuré, tu viens pour 15 jours. On a travaillé, on a trouvé un accord. On s'est mis d'accord. On a promulgué un budget le 14 février. Ce budget, il fallait respecter 5,4% de déficit. Tout le monde m'a dit ça ne marchera jamais. J'y ai mis toute mon énergie avec Éric Lombard pour que mois après mois, on respecte le compromis des parlementaires. Aujourd'hui, je peux vous dire très calmement, et c'est un élément très solide aussi du prochain compromis qu'on essaye de bâtir, oui. Le compromis trouvé en février, nous, gouvernement, on en a été les garants. On a respecté à la lettre le compromis des parlementaires. Et donc, ça fait pas un an qu'on est sur le budget. Le budget, vous savez, il y a encore deux semaines, on pensait qu'il n'y en aurait pas. On pensait qu'on ne serait pas capable de le déposer. On l'a déposé. Après, on a dit qu'il n'y aura pas de débat, parce qu'on allait censurer.
Et qu'est-ce que vous allez réussir à regarder, Françoise?
Et donc, on travaille, c'est une course d'endurance, et nous allons travailler méthodiquement devant les Français, avec une rigueur qu'on s'impose, parce que nous n'avons pas de majorité absolue. Et vous voyez, je trouve que c'est un très bon débat. On parle, vous savez, des forfaits de responsabilité, des franchises médicales. Le bon débat, c'est... Qui sont les Français qui ne payent pas ces franchises? Aujourd'hui, il y en a 18 millions. 18 millions de Français ne payent pas les franchises et les forfaits. Est-ce qu'il y en a plus qu'on veut protéger? Le bon débat, à mon avis, sur les retraites, c'est si on dit qu'il y a un gel...
Alors, sur les retraites, il y a un autre débat.
Oui, des retraites gelées ou pas.
Alors,
vous voyez, c'est un autre débat
sur les retraites. J'ai quand même une question très précise, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois que vous essayez d'arranger la situation, un autre problème se pose. Donc, suspension de la réforme des retraites, c'était pour faire plaisir à la gauche. Sauf que dans le financement...
C'est pour relancer un débat démocratique, parce qu'il y a une blessure démocratique sur ce sujet.
Bon. Le financement, on s'aperçoit que c'est les retraités qui vont payer. En plus de la sous-indexation qui était déjà prévue, on va encore plus les sous-indexer parce qu'il faut financer la mesure que vous avez donnée aux socialistes. Donc, est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode, ça, pour essayer, au fond, de charger la barque et de dire il faudra toujours qu'il y ait quelqu'un qui paye et il n'y a pas de... Voilà.
Ça, je suis désolée de vous dire, c'est peut-être un peu trivial, vous voyez, à midi et demi ce dimanche. À la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye.
Voilà. Bon. Mais est-ce que vous allez rester sur votre position? Parce que ça, à mon avis, ça ne va pas passer. La gauche est vent debout là-dessus.
Ce que le Premier ministre a dit, on peut suspendre la réforme jusqu'au présidentiel. On peut se donner du temps d'avoir une autre réforme des retraites. Mais ça a un coût. Voilà. Il faut bien le payer. Parce que sinon, le déficit, vous voyez...
Est-ce que vous allez rester sur vos positions? Vous dites, bon, si vous me trouvez un autre financement, j'accepte.
Mais vous savez, moi, je vous le dis très tranquillement, je peux rester sur toutes les positions que je souhaite. Je n'ai pas, moi, de bouton de vote. Donc, on dit, on propose, voilà à quoi ça peut ressembler. S'il y a des propositions alternatives pour financer à peu près 100 millions d'euros en 2026 et à peu près 1,4 milliard en 2027, par définition, le gouvernement s'en remettra au Parlement.
Autre question.
On le fera de manière éclairée. Mmh. On dira quelles sont les conséquences, qui ça concerne, comment ça marche. Et vous voyez, la proposition du gouvernement, c'est une chose assez simple. C'est quoi un système par répartition? Ce sont les actifs qui payent pour les retraités d'aujourd'hui. S'il y a moins d'actifs, il y a moins d'argent pour les retraités d'aujourd'hui. La proposition qui est faite... C'est une proposition qui est dans l'épure de ce qu'est un système par répartition. Si d'autres acteurs, par compromis, veulent une proposition alternative
par exemple,
de financement...
augmenter les cotisations.
Mais à nouveau, on aura le débat. Alors, moi, je le rappelle, je ne suis et je n'ai pas de Premier ministre qui soit chef d'une quelconque majorité. Nous sommes là pour que le débat
Amélie de Montchalin
et que le compromis soit trouvé.
Amélie
et
de Montchalin.
Je le fais, voyez, très tranquillement. Si nous avions une majorité absolue, par définition, nous n'en serions pas là. Et par définition, d'ailleurs, vous me poseriez des questions très différentes, parce que j'aurais le pouvoir de vous dire ça oui, ça non. Là, je vous dis quels sont les éléments du compromis qu'on peut trouver.
Question précise, Gérard Larcher, le président du Sénat, menace de rétablir la réforme. On a envie d'un peu de clarté. Est-ce que ce midi, vous pouvez dire aux Français que quel que soit le scénario, la suspension de la réforme des retraites, elle est en place déjà et elle est acquise jusqu'à 2028 Qu'est-ce que vous dites à Gérard Larcher?
Non, mais d'abord, je le dis aux Français. Pour que le débat ait lieu, de bonne foi, on a fait une procédure qui a permis de le mettre dans le texte du gouvernement désormais. On a changé notre budget. On l'a réécrit, on a ajouté que le gouvernement propose, c'était pas notre projet initial, mais maintenant, le gouvernement propose cette suspension. Ça, c'est dans ce qu'il y a dans le texte. Mais pour que je puisse dire ce que vous me dites aux Français, mais il faut que le budget soit voté. Le gouvernement n'a pas le pouvoir d'imposer une décision sans vote.
Et est-ce que Gérard Larcher a le pouvoir de rétablir la réforme?
Gérard Larcher, il est président du Sénat. Ce qu'il indique, c'est que la majorité du Sénat, manifestement, supprimera la proposition du gouvernement. Puis ensuite, ça retournera à l'Assemblée. Puis après, il y aura ce qu'on appelle une commission peut-être mixte paritaire. Peut-être qu'il se mettra d'accord ou pas d'accord. C'est un processus. Ce que nous savons, en revanche, c'est que nous avons à l'Assemblée une majorité de députés qui souhaitent que par volonté d'assurer une stabilité au pays, cette suspension soit à la fois financée et que pendant cette suspension, ça soit pas juste on suspend, c'est on suspend et on travaille pour voir si on peut créer un nouveau système de retraite. Mais moi, de nouveau, nous sommes en démocratie. Pendant des mois et des mois, souvenez-vous, le 49-3, c'était impossible, c'était la dictature, c'était autoritaire. Ça permettait au gouvernement, effectivement, de tenir le crayon. On nous a dit, très bien, le crayon, on le pose. Il n'y a plus de 49-3.
Donc
je ne peux pas répondre à votre question, parce que la procédure dans laquelle nous sommes, c'est une procédure parlementaire, démocratique.
On vous entend. Vous avez martelé ce mot suspension. Mardi dernier à midi, Emmanuel Macron enterrait la suspension de la réforme des retraites. Lui, il évoquait un décalage à 15h devant les députés. Sébastien Lecornu confirmait cette suspension. On se demande quand même qui est le patron au sein du couple exécutif. Mais c'est qui commande? C'est qui est le pilote dans
la région? Un président préside, un gouvernement gouverne, un premier ministre s'exprime devant la représentation nationale. Et vous savez où est le pouvoir? Il est au Parlement.
D'accord. Donc vous dites, c'est Sébastien Lecornu, il a les coudées franches.
Mais vous savez, on a fait un conseil des ministres mercredi, à 9h30, nous sommes réunis. Il y avait le président de la République, il y avait le gouvernement. Nous avons délibéré collectivement pour inclure dans le budget de la sécurité sociale la proposition de suspension qui avait été faite lors de la discussion de politique générale du premier ministre. Voilà. Et à la fin, qui a le pouvoir? Le Parlement. Nous sommes un régime démocratique. Parfois, j'ai l'impression que c'est des tautologies, mais il faut le rappeler. Et le président, si on écoute certains réseaux sociaux, serait une espèce de, vous voyez, dictateur marionnettiste qui tiendrait les ficelles. Nous sommes une démocratie. Moi, je suis face à 310 députés. Vous voyez, depuis là, il y avait 310 députés hier à l'Assemblée. Mais le pouvoir, c'est eux qui l'ont. Dans chacun de leurs votes. Quand le RN décide de ne pas lever l'impôt, ils ont un pouvoir, ils peuvent foutre un énorme bazar dans le pays, excusez-moi de parler trivialement. Quand LFI décide que sur le barème de l'impôt sur le revenu, ils souhaitent que ça ne concerne pas les plus riches de notre pays, ils ont aussi un pouvoir. Et ils sont en train, par ce biais-là, de faire des choses totalement contraires à leurs intérêts. Quand les députés devant moi font un geste de vote et qu'ils trouvent un compromis sur l'évolution du crédit service impôt à la personne pour en préserver l'existence, tout en peut-être révisant certains plafonds pour les ménages les plus aisés, ils ont le pouvoir. Et vous savez, hier, c'est pas que j'ai été battue ou que j'ai gagné. J'ai passé des heures de ma journée, avec beaucoup d'engagement, à dire, voilà, je vous informe de combien ça coûte. Je vous informe des conséquences que ça a. Je vous informe de comment ça marche. Mais le pouvoir, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez.
Voilà pour le budget. Amélie de Montchalin, nous avons encore deux questions d'actualité. La première, parce que c'est tombé et il y a quelques minutes, garde à vue de deux personnes, je parle du casse du Louvre, garde à vue de deux personnes interpellées, placées en garde à vue. C'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de paroles pour dire que la France, là, il y avait une petite humiliation. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous sur ces arrestations ce matin?
Alors, par définition, et Laurent Nunez s'est exprimé il y a quelques minutes, nous ne pouvons pas partager le secret de l'enquête. Et pour que l'enquête fonctionne, il vaut mieux qu'on n'en partage pas les détails. Ce que je peux vous dire en tant que aussi ministre de la fonction publique, avec David Amiel à mes côtés, ce que je vois, c'est des agents publics, de très grande qualité, de très grandes compétences et très engagés qui font qu'en une semaine, eh bien, il y a des premières interpellations.
Deux, vous confirmez deux ?
Moi, je ne suis, vous voyez, ni ministre de l'Intérieur, ni en charge de l'enquête. Donc, les informations qui circulent, circulent. Mais moi, ce que j'ai à vous dire, c'est la fierté que j'ai d'être dans un pays où, quand les choses sont difficiles, eh ben, vous avez des hommes et des femmes de terrain qui font qu'on a des premiers résultats. Et ça, je pense que c'est une première bonne nouvelle.
Autre question d'actualité, c'est plutôt la photo de la semaine. On a vu Nicolas Sarkozy sortir main dans la main avec son épouse. L'ancien président de la République se rendait à la prison de la Santé où il dort depuis 5 jours. Le ministre de la Justice, votre collègue, veut lui rendre visite. Est-ce que vous comprenez que certains trouvent cela choquant ? Est-ce que vous, vous iriez rendre visite à Nicolas Sarkozy à la Santé ?
Alors, sur ce sujet, je vais peut-être là aussi dire des choses qu'il faut parfois dire avec calme. Je ne commenterai pas la décision de justice. Je ne commenterai pas les visites
pas ma question.
D'un garde des Sceaux en prison, qu'un ministre de la Justice soit en prison.
Hein,
je ne commenterai pas les rendez-vous entre des anciens présidents de la République. Et je ne commenterai pas ce qui tient à l'indépendance de la justice et au fonctionnement de la justice. Elle fonctionne. On connaît les procédures.
Mais quand le garde des Sceaux va voir quelqu'un qui est condamné pour association de malfaiteurs, 5 ans de prison, vous dites l'indépendance fonctionne. On voit bien que du côté des collectifs d'avocats, ça fonctionne pas. Du côté procureur général près de la Cour de cassation, ça pose un problème.
Qu'un garde des Sceaux aille s'assurer des conditions de détention, vous voyez, d'un ancien président.
Il le fait jamais, ça. Une exception. Bah, il rend pas visite tous les 4 matins à des détenus dans des prisons.
Bien sûr, bien sûr. Gérald Darmanin se rend, je crois, à peu près au moins une fois par semaine en prison.
Non, mais se rendre en prison, c'est pas la même chose que de faire une visite que je qualifierais presque de privée à un détenu particulier.
Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Que le garde des Sceaux aille vérifier les conditions de détention des détenus, des bonnes conditions de détention des détenus, quand il va dans les prisons de haute sécurité, vous voyez, c'est son rôle, c'est son métier. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Et je ne souhaite pas d'ailleurs qu'il y ait de polémique, parce que toutes ces polémiques abîment une chose.
Oui, mais attendez.
L'indépendance de la justice, le fonctionnement de la justice, le fait que des juges, de manière collégiale, prennent des décisions. Il y aura des décisions, on le sait, potentiellement sur une remise en liberté.
Vous vous défendez.
Il y aura des procès en appel. À nouveau, je suis ministre, vous voyez, de la fonction publique. Mon rôle ce matin devant vous, c'est de ni commenter les décisions de justice, ni de mettre à mal les agents qui travaillent dans notre système de justice.
Est-ce que vous avez quand même un avis sur la façon dont Nicolas Sarkozy, sa famille, ses enfants ont orchestré son incarcération, c'est-à-dire, au fond, de fustiger une justice injuste, se prendre pour le comte de Monte Cristo, dire, au fond, on poursuivra la bataille jusqu'au bout. Est-ce que vous, en tant que citoyenne, vous êtes choquée qu'un ancien président de la République mettre en cause une décision de justice comme il le fait, et avec une tournure politique évidente?
Chacun a le droit de contester une décision de justice, ça s'appelle l'état de droit. Je suis membre du gouvernement, je ne commande pas les décisions de justice. Nous sommes un pays où nous avons une liberté d'expression, nous avons aussi une liberté de mouvement. Chacun, ensuite, décide de ce qu'il en fait, et j'arrêterai d'en parler parce que je pense qu'on abîme. On abîme une institution qui est cruciale pour un pays, qui est la justice, quand on se lance dans des polémiques où, à nouveau, en tant que membre du gouvernement, ma responsabilité, c'est de respecter la séparation des pouvoirs.
Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, vous êtes l'invitée de Questions politiques. On va tenter de mieux vous connaître aujourd'hui.
France Inter. Alexandra Ben Saïd. Question politique.
Et celle qui dévoile nos invités, c'est Alix Bouyagué, notre spécialiste des biographies et des archives.
Évidemment, ce soir, je tiens aussi à prendre acte de la victoire de Jérôme Guedj, à qui j'adresse mes félicitations républicaines. Comme le veut la tradition républicaine, je ne ferai pas partie du prochain gouvernement, mais je veux ici remercier le président de la République, la Première ministre, pour la confiance qu'ils m'ont faite.
On vient de vous entendre à l'instant très ému. C'était le 19 juin 2022. Vous venez de perdre votre mandat de député de l'Essonne. Vous qui avez été longtemps l'étoile montante de la Macronie, sincèrement et vraiment sans langue de bois, qu'est-ce que vous avez appris de cette défaite ?
Que la vie politique, ce sont des missions et que c'est pas un métier. Que c'est un immense honneur d'être député, mais que on est là pour servir son pays. C'était ma conviction depuis le départ. Le temps et dans les circonstances où on y est appelé. J'ai été députée, c'était un mandat qui m'a beaucoup appris, beaucoup formé. J'ai beaucoup aimé ce rôle de lien entre un territoire et la vie de la nation. Je ne le suis plus, je fais partie du gouvernement, et je sais que je suis là pour un temps donné, et que j'essaye de faire le mieux maintenant, et puis C'est une mission, c'est pas un métier.
Depuis 2022, vous étiez représentante permanente de la France à l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, avant d'être effectivement renommée au gouvernement en décembre dernier. Revenir dans le jeu politique, c'est votre rêve absolu, c'est maintenant c'est ce qui vous constitue.
Alors c'est pas un rêve, non. Je le fais par esprit de service. Et je crois que au fond de moi, il y a une chose qui m'anime, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Vous voyez, moi, ça m'entriste, en fait, de me dire que un pays comme le nôtre peut s'abîmer dans les affres de débats qui tournent en rond, des extrêmes qui sont à nos portes. Donc voilà, moi, je me sens engagée parce que, comme je dis souvent à mes équipes, le jour où je serai cynique ou découragée, je partirai.
Je reviens à la genèse, à votre parcours.
C'est pas un rêve, non, c'est un engagement.
Oui, mais justement, sur cette bascule, votre parcours académique, il est brillant, HEC, Harvard, vous passez par la banque, l'assurance, donc économiste chez PNB Paribas, directrice de la prospective et du suivi des politiques publiques chez AXA. Pendant vos études, vous êtes l'assistante de Valérie Pécresse.
J'ai fait un stage à ses côtés, oui.
Exactement. Est-ce que c'est elle votre modèle? Est-ce que c'est elle qui vous inspire et qui vous a donné le goût de la politique?
Vous savez, quand j'ai été à ses côtés pendant 6 mois, j'avais 22 ans. J'ai vu une chose qui m'a effectivement inspirée. J'ai vu une femme qui avait 3 jeunes enfants, qui faisait de la politique dans un milieu à l'époque beaucoup plus misogyne qu'aujourd'hui, et qui menait des combats pour la vie quotidienne. Elle était à la commission des affaires sociales et elle s'occupait de sujets de politique sociale, d'efficacité au fond de notre modèle. J'ai trouvé que c'était un modèle inspirant. Et puis après, j'ai été ce que certains appelaient, d'ailleurs François Fillon, appelait les députés Internet. Quand Emmanuel Macron... à chercher à renouveler aussi les usages et les visages, comme on disait à l'époque. Il a dit, voilà, je lance un appel à candidature, aussi à des femmes, jeunes ou moins jeunes, vous pouvez envoyer votre candidature si vous souhaitez devenir députée.
Oui, mais vous lâchez quand même la droite, parce que vous avez fait des notes pour la primaire d'Alain Juppé.
Pour Alain Juppé,
en 2016, effectivement. Et en janvier 2017, vous vous convertissez, entre guillemets, au macronisme. Et c'est vrai que là, votre parcours, il est sans faute. Lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, les affaires européennes, ministre de la fonction publique, la transition écologique. Certains disent que vous êtes l'essence même du macronisme, c'est-à-dire la techno. On en parlait à l'instant, la bonne élève, mais aussi donneuse de leçons, sûre d'avoir raison. Contre tous. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là d'être devenue l'incarnation du macronisme, de ces fameux députés, comme vous disiez à l'instant, Internet, là ?
En fait, alors, j'assume totalement de m'être engagée dans un mouvement qui était le dépassement et qui, au fond, vous voyez, dans les temps où nous vivons aujourd'hui, de dire qu'il n'y a pas la vérité d'un côté, la droite, ou l'erreur de l'autre, la gauche, et au fond, que sur tous les sujets, on peut trouver des solutions de compromis parce qu'on prend le meilleur des idées qui existent.
Oui, mais sur la personnalité, je parle de l'arrogance qu'on peut prêter à Emmanuel Macron et qu'on a prêté à ses députés en 2017.
Je ne crois pas avoir, au fond de moi, autre chose que parfois des convictions. Et je pense qu'avoir des convictions, c'est une bonne chose, parce que ça permet d'avoir parfois une forme de cohérence. Après, avoir des convictions, ce n'est pas avoir des certitudes. Et vous voyez, le moment que nous vivons actuellement, j'espère en avoir fait la démonstration, moi, je n'ai pas de certitudes. J'ai plutôt l'impression qu'il faut qu'on aide notre pays à dépasser un moment très politique où soit on tourne en rond et on va juste donner le pays aux extrêmes qui n'ont pas envie d'en faire autre chose, qu'on le voit, que de créer beaucoup, beaucoup, en ce moment on le voit, de confusion pour les Français, ou est-ce qu'on s'engage? Quand on s'engage, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Moi j'ai été fière, vous voyez, d'arriver à trouver un compromis au mois de février dernier pour remettre le pays sur une forme de rail. J'ai été fière de me dire que cette année, on a réussi à tenir les objectifs budgétaires. Mais pour le reste...
Mais est-ce que vous avez évolué vous-même? Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas une grande différence entre Amélie de Montchalin du premier mandat, qui était quand même pétrie de certitudes, et Amélie de Montchalin aujourd'hui, qui est à la recherche d'un compromis pratiquement impossible? Est-ce que vous avez appris de vos années aussi?
Mais vous savez, j'ai appris, j'ai mûri, j'ai grandi. Vous m'avez demandé si j'avais des regrets. Oui, bien sûr, on a toujours... C'est moins des regrets que de ce qu'on essaye de faire différemment ensuite. Mais parce qu'aussi la situation a changé, parce que voilà, on grandit. Et je pense que c'est une bonne chose aussi de pouvoir dire qu'on est au fil d'une vie. Moi, il y a des choses qui me constituent et qui n'ont pas changé. C'est que je suis résolument engagée pour me dire qu'il n'y a pas de fatalité et que si on peut prendre une petite part à l'œuvre collective et d'aider son pays, c'est un immense honneur. Mais ensuite, pour le reste... je suis celle que je suis devant vous aujourd'hui.
Amélie de Montchalin, et dans ce portrait, on demande en général à nos invités de venir avec une carte blanche pour continuer à comprendre justement qui ils sont. Vous avez choisi de parler d'Octobre Rose.
Oui, je suis venue avec un ruban rose parce que je me suis dit que plutôt que de parler de moi, vous voyez, pendant 2 minutes, j'allais lancer un appel à toutes les femmes qui nous entendent. Parce qu'on sait que 60 000 cas de cancer sont encore détectés, cancer du sein, sont détectés chaque année. Parce que j'ai des amis, des très proches, Lydia, Laetitia, Philippine, Yael Braun-Pivet aussi, qui avait révélé cette battue contre un cancer, qui l'ont fait avec énormément de courage. Et on sait que le dépistage, c'est une étape essentielle. Et donc je me suis dit que plutôt voilà, que de parler d'un sujet personnel, j'allais plutôt rappeler à chacune d'entre nous, parce que je fais des dépistages, je pense que chacune d'entre nous autour de cette table, sûrement aussi, qu'il fallait, même s'il n'est pas toujours très agréable, même si on n'a pas toujours très envie de le faire, eh bien, se dire que ce petit moment où on prend soin de soi, il peut sauver sa vie. Et donc, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui.
Et nous, nous allons vous ramener sur le budget, parce que ce son qu'on veut vous faire écouter, c'est celui du patron de la Mutualité française, Éric Chenu. Et lui, il explique que vos choix budgétaires dans le PLFSS, eh ben, ça va faire payer des franchises supplémentaires, y compris à ces femmes qui ont un cancer du sein. Je vous propose de l'écouter.
On aura quadruplé les franchises sur les boîtes de médicaments en 2 ans. 2 euros par boîte de médicaments. C'est proprement incompréhensible. À l'heure où on fête les 80 ans de la Sécurité sociale, c'est une remise en cause de l'universalisme des prestations de la Sécu. On est à la fin d'Octobre rose. En quoi une femme qui a un cancer, qui est en affection de longue durée, elle va se retrouver avec les franchises sur les boîtes de médicaments, sur les transports, sur les participations forfaitaires pour les consultations médicales, avec un reste à charge d'ordre public de 250 euros. C'est totalement incompréhensible, je trouve ça choquant.
Est-ce qu'il a raison, Éric Chenu ? Les franchises, elles vont concerner aussi les femmes avec un cancer affection de longue durée ?
En fait, ces franchises ou ces forfaits, ce qu'on dit, c'est que dans la proposition actuelle, elles ne concernent pas 18 millions de Français qui sont les plus modestes, pour qui ces franchises n'existent pas. Et pour tous les autres, eh bien, nous proposons, au fond, que dans la limite de 100 euros pour les médicaments dans l'année et de 100 euros pour les consultations dans l'année, chacun puisse contribuer, au fond, selon ses moyens. Si on ne fait pas cette proposition, ce que nous voyons, c'est que nous avons un risque de mettre tout notre système de santé en difficulté. Nous resterons, même après cette proposition, le pays, et j'en suis très fière, où nous avons le reste à payer le plus bas du monde. Mmh. Où nous avons, je crois d'ailleurs, vous l'avez vu, sur l'immunothérapie, si on reparle des cancers, des résultats très probants. On a un taux de survie à 5 ans qui est un des meilleurs au monde. Eh bien, tous ces éléments-là, ils sont le fruit d'investissements. Et la proposition qui est faite, c'est de dire, peut-être que selon ses moyens, chacun peut... Vous voyez, en moyenne, c'est 42 euros de plus par an de notre poche, un peu plus d'un euro par mois. Pour les personnes qui ont les soins les plus coûteux, c'est plutôt de l'ordre de 70 euros dans l'année. J'entends le débat, il va avoir lieu. Mais vous voyez, on est aussi là parce que notre sécurité sociale fonctionne, qu'elle nous soigne bien. Et on est le pays au monde où ces restes à charge sont vraiment les plus bas.
C'est votre réponse.
Et donc la réponse que j'ai, c'est le dépistage, par exemple, puisque c'est celui dont on parle aujourd'hui, il est totalement gratuit pour toutes les femmes, tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans. Et ça, je pense que vous voyez, c'est un actif que très peu de pays au monde, très peu de pays au monde peuvent déployer.
Allez, on avance. Et comme chaque semaine, on va aller sur la séquence France 2027. Françoise Fressoz, une question qui sera au cœur du débat public de la présidentielle.
Oui, la dynamique électorale dont bénéficie le Rassemblement national aujourd'hui. C'est l'enquête Ipsos sur les fractures françaises, publiée dans Le Monde mardi 21 octobre, qui confirme et complète ce que les sondages d'intention de vote montrent. Loin d'être un parti repoussoir, comme il l'a été longtemps, le RN est devenu le parti politique dont les Français se sentent le plus proches ou le moins éloignés. Je cite là Gilles Finkenstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès, proche du PS, peu suspecte de complaisance envers le RN et qui écrit ceci dans Le Monde, même si rien n'est évidemment joué, même s'il y a bien du chemin pour passer du parti au candidat, même si la campagne électorale va faire bouger les lignes, il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Le RN est aujourd'hui le favori de la prochaine élection présidentielle. Alors, Amélie de Montchalin, le constat est terrible quand on se souvient qu'en 2017, la promesse d'Emmanuel Macron, et ça, je me réfère à son livre « Révolution », c'était d'abord une promesse démocratique, réduire le fossé entre le peuple et ses gouvernants, réconcilier l'idée de liberté et de progrès, incarner une France optimiste et ouverte. Aujourd'hui, 58% des personnes interrogées souhaitent la démission du président de la République, considéré comme le principal responsable de l'instabilité politique et de la crise démocratique. Quelles leçons tirez-vous de cette évolution ?
J'en tire une pour le moment que nous vivons. soit collectivement, on trouve ce compromis et on montre que la politique est utile aux Français, soit, au fond, on créditera ce que racontent les extrêmes. À savoir qu'il n'y a que pour proposer une solution. Mais comme je vous l'ai dit, les extrêmes, on le voit, et notamment le RN, les votes, je vous ai parlé de cette histoire d'article 1, vous allez me dire pourquoi vous me parlez à nouveau de ce sujet. Parce que derrière l'image de respectabilité, l'image de on fera mieux, l'image de on sera des bons gestionnaires pour le pays, il y a la réalité.
Mais je vous entends bien, mais
et cette réalité,
qu'est-ce qui s'est passé sous le double mandat d'Emmanuel Macron pour qu'on en arrive au fond à cette promesse démocratique totalement qui n'a pas marché du tout? Où a été la faille? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment quelque chose s'est déréglé?
Moi, il y a des responsabilités, je pense, collectives. Il y en a chez nous, des politiques qui n'ont pas été comprises, des décisions peut-être qui n'ont pas été les bonnes, et je l'assume totalement. Il y a une responsabilité collective de notre système politique. À force de la donner l'impression que quand on est des opposants, on ne peut rien faire ensemble, on a créé l'idée qu'au fond, il n'y avait qu'une responsabilité que dans un côté du champ politique. Et donc ça, c'est à mon avis très grave, et c'est ce qu'on essaye de réparer, je pense que vous en avez vu la démonstration depuis le début de l'émission. Et donc de trouver des solutions. J'entends des gens comme Bernard Cazeneuve, comme Xavier Bertrand, dire au fond comment on prépare cette présidentielle. À ma petite échelle, vous voyez, j'ai souvent dit, moi je suis là pour ranger la maison d'ici à 2027. Non pas pour faire de la logistique et de l'intendance, mais parce qu'il faut que cette présidentielle de 2027 soit un vrai débat démocratique, qui se tienne dans de bonnes conditions. On ne pourra pas avoir ce débat si on a un déficit, les agences de notation, etc. Et puis troisième élément, on n'en parle jamais parce qu'on a l'impression que c'est extérieur. Enfin, c'est extérieur, mais c'est devenu très profond. On a vécu deux très grandes crises. Deux très grandes crises. On a vécu la crise du Covid, qui a changé notre rapport au travail, qui a changé notre rapport à la santé.
Tous les pays ont vécu la crise du Covid.
Et ce que je vois, c'est que tous les pays alentours, si vous regardez ce qui se passe au Royaume-Uni en termes de fracture, le parti de Nigel Farage a potentiellement une majorité absolue si les élections se tiennent demain. Si vous regardez ce qui se passe en Allemagne, où l'AFD est au port du pouvoir dans beaucoup de Länder et de communes et a des sièges au Bundestag comme ils n'ont jamais eu. Si vous regardez ce qui se passe en Italie, si vous regardez en Espagne, il n'y a pas de budget depuis près de 3 ans. Donc, la démocratie souffre de ces crises, souffre aussi de ce qu'est la guerre en Ukraine. On en oublie les conséquences. Mais ça crée aussi une attaque permanente de nos démocraties, notamment par l'influence russe. Et puis le troisième élément, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a changé de monde. Les réseaux sociaux, la pratique politique, quand je vous parlais de sprint au tweet, tout débat démocratique maintenant dans l'Assemblée, par les extrêmes, n'est pas fait pour faire avancer le débat, il est fait pour faire une capsule vidéo de 2 minutes qui est mise sur les réseaux sociaux et en général qui raconte des choses qui n'ont rien à voir avec le Schmilblick, mais pour faire croire aux Français qu'on travaille pour eux. Le président de la République, je crois, cette semaine, réunit les acteurs de ce qui s'était appelé les états généraux de l'information. Parce que derrière l'information, c'est la démocratie. Et derrière la démocratie, c'est comment les gens vont au vote. Et ça, à mon avis, ce sont des éléments qui ne nous dédouanent pas. Et je vous le dis vraiment très, très simplement. Ça ne nous dédouane pas. Mais il faut que, au fond, même avec nos différences d'approche politique, on soit capable de faire la part des choses. Parce que ce que vous dites sur cette société inquiète et fragmentée, souvent désabusée, pour moi, le seul remède, c'est qu'on soit capable de remontrer par l'action des partis de gouvernement, au fond, ceux qui ont été au pouvoir et ceux qui aspirent à y revenir, que les extrêmes ne sont pas des solutions, sont au fond souvent des illusions.
Amélie de
Montchalin. Je crois que beaucoup des votes qui se jouent dans l'hémicycle le prouvent.
Ce sont les dernières minutes de l'émission, voire la dernière minute. On se quitte avec une petite séquence de vrai-faux. Je donne des affirmations. Vous me dites vrai ou faux. Manuel Valls, dans Le Point cette semaine, qui dit que le macronisme a réuni autour du seul libéralisme. Il a été, ce macronisme, la négation du politique. Vrai ou faux?
Faux.
Ce serait une bonne idée de carrément supprimer le 49-3. Vrai ou faux?
Il faut changer la Constitution, donc difficile à dire.
En cas de législative anticipée, vous serez à nouveau candidate. Vrai ou faux?
Je ne me prépare pas du tout à ça.
La dette, ça c'est François Bayrou, c'est pour le confort de certains partis politiques et pour le confort des boomers. Vrai ou faux?
Faux.
Vous allez réussir à toper avec le PS pour une forme de taxe Zuckmann. Vrai ou faux?
J'y travaille. Vous pensez pas pour la taxe Zuckmann, pour le compromis.
Vous pensez qu'Emmanuel Macron se représentera en 2032? Vrai ou faux?
D'ici là, beaucoup de choses se passeront. Ne crois pas.
Eh ben, dites-moi. Vous ne croyez pas, ça c'est une info. Merci Amélie de Montchalin d'avoir répondu à nos questions politiques. Un excellent dimanche à tous.